Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Psachim, page 31, Daf Lamed Aleph. Bonne écoute et bon limoud.
Et que le créancier peut venir et récupérer ses biens du Ekdesh, c'est-à-dire des biens qui ont été sanctifiés, il aura le droit de les récupérer et ses biens ne seront plus saints. Et l'explication en fait est très simple. Étant donné qu'il y a une règle qui nous dit que lorsque un débiteur prend un prêt, tous ses biens immobiliers sont hypothéqués envers le créancier. Et donc en fait, ce débiteur, étant donné que ses biens étaient hypothéqués au créancier, il n'avait pas le droit ni de les vendre, ni de les sanctifier. Et donc, s'il les a vendus ou sanctifiés, c'est sûr que s'il n'a pas d'argent, étant donné que ses biens étaient hypothéqués, le créancier a le droit de récupérer ses biens et de l'acheteur, si dans le cas où il a vendu, ou du Ekdesh, c'est-à-dire de la direction des choses saintes, ses biens ont été sanctifiés. Mais la Gemara nous précise que s'il veut récupérer ses biens du Ekdesh, alors il faudra quand même qu'il les rachète avec une valeur minimale de 1 dinar. 1 dinar significatif. C'est-à-dire, étant donné, c'est vrai que ce créancier, normalement, pourrait récupérer ses biens gratuitement, car ses biens lui étaient hypothéqués. Mais pour ne pas qu'on en vienne à dire qu'il est possible de racheter et de faire sortir des choses saintes sans les racheter financièrement, alors, c'est pour ça que les sages vont décréter qu'il devra donner un dinar, une somme minime, significativement, pour que l'on n'en vienne pas se tromper, qu'on sache que c'est seulement dans ce cas-là qu'il a le droit de les récupérer, mais dans les autres cas, il faut les racheter avec leur valeur entière. Ditnan, et la Gemara nous précise, Ditnan, car nous avons enseigné dans une Mishnah, Mosif od dinar, ou podet anechassim. Il rajoute un dinar, et en cela, rachète les biens qui ont été sanctifiés à anechassim, à elous, ces biens-là. Donc, sur ce point-là, il n'y a pas de discussion. Si c'est le débiteur qui a vendu ou sanctifié ses biens, il n'y a pas de discussion. Qui plie, et lorsqu'il y a une discussion, des avin malve, ve kadish malve. Dans le cas où le créancier a vendu ses biens avant de les percevoir, ou s'il les a sanctifiés. Alors Abaye, Amar Abaye nous dit, les mafre agove. Lorsqu'il perçoit ses biens, il s'avère que rétroactivement il lui appartenait depuis le moment du prêt. Et donc, kevan de matazman, puisque est venue la date où le débiteur aurait dû payer la dette, velopare, et il ne l'a pas payé, Iglae milta, il s'avère, les mafra, rétroactivement, demeikara bishute avekae, que depuis le début, c'est-à-dire depuis la date du prêt, ses biens étaient en possession de créanciers. Et donc, veshapir igdish, veshapir zavin. Et donc, ce qu'il a sanctifié ou ce qu'il a vendu, ça a été fait en bonne et due forme. Verava amar, et Rava nous dit, mikanu laba ogove, que c'est que à partir de maintenant qu'il perçoit ses biens et pas rétroactivement. Et donc, pourquoi? Car si le débiteur avait de l'argent, il aurait pu payer sa dette avec de l'argent et donc renvoyer ce créancier avec de l'argent. Ishtakar, il s'avère, des hashtag kané, que c'est que maintenant que ce créancier acquiert ses biens. Et donc, puisque c'est que à partir de maintenant que ce créancier acquiert ses biens, donc, s'il les a sanctifiés ou vendus avant de les percevoir, il a en fait sanctifié et vendu quelque chose qui ne lui appartient pas. Et donc, cela n'est ni sanctifié, ni vendu. Agma demande, Oumiyama Rava Ahi, est-ce que Rava a dit une chose pareille? Ve'ama Rami Bachama, pourtant Rami Bachama a dit, et on rapporte un cas qui s'est passé. Rouven, Shemachar, Sadel et Shimon. Si M. Rouven a vendu un champ à M. Shimon, Bacharayut, sous garantie. C'est-à-dire que Rouven a vendu le champ à Shimon et lui a promis que ce champ n'était pas hypothéqué et que si un des créanciers de Rouven voulait récupérer ce champ car ce champ est hypothéqué, alors Rouven en rendra la valeur à Shimon. Et M. Shimon n'avait pas d'argent. Vezakfan alav bemilve. Et donc, la valeur de ce champ, il a mis en dette envers Reuven. C'est-à-dire que maintenant, Monsieur Shimon doit de l'argent à une dette financière envers Reuven, de la valeur du champ, et monsieur Reuven s'est porté garant que ce champ n'est pas hypothéqué. Oumet Reuven, et monsieur Reuven est décédé, Vata Balchov est venu un des créanciers de Reuven, de monsieur Reuven, Vetarif Lemi Shimon, et il est venu et il a perçu ce champ en contrepartie de sa dette. Donc en fait, ce champ était oui hypothéqué, et donc en fait, monsieur Reuven, maintenant, doit rendre la valeur de ce champ à monsieur Shimon. Vata Shimon, et Shimon est venu, ou Paise Bezouze, et il a essayé de repousser le créancier de Reuven en lui donnant de l'argent. C'est-à-dire, il lui a dit, ne prends pas le champ, prends de l'argent à la place. Et le créancier était d'accord. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que monsieur Shimon a payé la dette de monsieur Reuven qui est décédé. Maintenant, alors monsieur Shimon en fait veut récupérer son argent de la part des orphelins de monsieur Reuven. Mais étant donné que lui-même a une dette envers les orphelins de monsieur Reuven de la valeur du champ, alors en fait ce qu'il veut dire aux orphelins de monsieur Reuven, c'est de leur dire, écoutez, moi j'ai payé votre dette envers la dette de votre père. Moi, j'ai une dette envers vous, étant donné que j'ai payé la dette de votre père, maintenant, je ne vous dois plus rien. Alors, la Gemara nous dit, Dina ou de'atu b'nei Reuven, ve'amre le Shimon. La loi nous dit que les enfants de Reuven viennent et peuvent lui dire à monsieur Shimon, Anan metaltele shavak avun gabar. Nous, ce que notre père nous a fait hériter envers toi, ce sont des biens mobiliers. C'est-à-dire, ce qui nous a hérité, c'est une garantie. C'est-à-dire que si jamais ce champ est perçu par quelqu'un en contrepartie d'une dette, alors nous devons te payer de l'argent. Donc de l'argent, c'est des biens mobiliers. Or, nous avons une règle qui nous dit, « Umetal tele de yatme le baal chob lo mishtabde » que les biens mobiliers des orphelins, qu'ils ont hérités de leur père, ne s'hypothèquent pas envers un créancier. Et donc toi, c'est vrai que tu es un créancier, car maintenant nous te devons la valeur de ce champ, mais étant donné que nos biens mobiliers ne s'hypothèquent pas envers les créanciers, et donc envers toi, monsieur Shimon, non plus, donc maintenant, en fait, on ne te doit rien. Et donc ce qui reste, c'est juste ta dette pour l'achat du champ envers notre père et donc envers nous aussi. Et donc en fait, les orphelins veulent dire à monsieur Shimon, c'est vrai que tu as payé la dette de notre père envers son créancier, mais nous, cette garantie que notre père avait envers toi, nous, cette garantie, nous n'en avons plus l'obligation. Et donc en fait, maintenant, nous ne te devons rien pour cette dette que tu as payée envers le créancier de notre père, et il ne reste que la dette que tu as envers notre père pour l'achat du champ. Et donc maintenant, tu devras nous payer la valeur du champ. Ve'amar Rava, et Rava a dit, Ipikar Shimon, si Shimon est intelligent, Magbeleu Ara, alors ce qu'il fait, c'est qu'il leur donne ce champ en contrepartie de sa dette, c'est-à-dire que Shimon a une dette envers ses orphelins, alors il leur donne ce champ, il leur dit, voilà, j'ai pas d'argent, prenez ce champ pour la dette. Et après, donc, puisqu'il a donné le champ, Ve'adar Gavele Minayu, il peut le percevoir à nouveau en contrepartie de la dette que ses orphelins ont envers lui. D'Amar Nachman, car Nachman a dit, Yetomim Shegavu Karka Bechovat Aviem, des orphelins qui ont perçu un champ pour la dette que quelqu'un avait envers leur père, Baal Chov, le créancier de leur père, Choser Vegove Otamem, il peut percevoir ce champ des orphelins. C'est-à-dire que c'est vrai que les biens mobiliers que les orphelins ont hérités de leur père, ces biens ne sont pas hypothéqués envers le créancier, mais les biens immobiliers qu'ils ont hérités, eux sont oui hypothéqués envers le créancier de leur père. Et donc, si ils ont eux-mêmes perçu des biens pour la dette que quelqu'un avaient envers leur père, nous considérons qu'ils ont en fait hérité ces biens de leur père, et donc ce sont des biens immobiliers qu'ils ont hérités de leur père et qui sont donc hypothéqués aux créanciers de leur père. Et donc en fait, Rava nous dit, puisqu'il y a une règle pareille, monsieur Shimon, ce qu'il peut faire, c'est qu'il donne ce champ aux orphelins pour payer sa dette. Et donc, en fait, il s'appelle que des orphelins qui ont perçu un champ pour une dette que quelqu'un avait envers leur père. Et il y a la suite de l'arrêt qui nous dit que lorsque des orphelins ont perçu un champ pour la dette que quelqu'un avait envers leur père, le créancier de leur père peut la récupérer. Et donc, en fait, Shimon, qui est le créancier de leur père, car M. Reuven avait une garantie envers ce champ et a promis de le payer si un de ses créanciers le prenait, donc en fait, M. Reuven devait de l'argent à M. Shimon. Donc maintenant, en fait, M. Shimon est le créancier de M. Reuven. Et donc, on peut appliquer la fin de la règle. M. Shimon, qui est un créancier de M. Reuven, peut récupérer un bien que les orphelins ont perçu. Et donc, il peut récupérer à nouveau ce champ. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que M. Shimon a payé la dette de M. Reuven, puis les orphelins viennent récupérer la valeur du champ. Alors, M. Shimon leur donne le champ, puis M. Shimon récupère ce champ, car en fait, ce champ lui était hypothéqué, car M. Reuven avait une dette envers lui à cause de la garantie. Comme nous venons de le voir, il y a une discussion entre Abaye et Rava. Est-ce que lorsque un créancier perçoit une dette, perçoit des terrains immobiliers en contrepartie de sa dette, est-ce que nous disons qu'il perçoit ces terrains en fait rétroactivement et il s'avère que ces terrains lui appartenaient depuis la date de l'emprunt, et ça c'est l'opinion de Abaye, ou nous allons dire que non, ces terrains en fait lui appartiennent qu'à partir du moment où il les perçoit. Et ça, c'est l'opinion de Rava. La Gemara a voulu amener une preuve et prouver que Rava se contredit apparemment. Car il y a un cas qui s'est passé où M. Shimon a acheté un terrain de M. Reuven sous garantie. C'est-à-dire que si ce terrain était hypothéqué et qu'un des créanciers de M. Reuven venait récupérer ce terrain, M. Reuven s'engage à payer à M. Shimon la valeur du terrain. D'un autre côté, M. Shimon, lui, n'avait pas d'argent pour payer à M. Reuven la valeur du terrain. Alors, M. Reuven lui a fait un prêt, c'est-à-dire il lui a prêté la valeur du terrain. Donc, en fait, maintenant, M. Shimon avait une dette envers M. Reuven de la valeur du terrain. Puis, M. Reuven est décédé, et un des créanciers de M. Reuven est venu et a voulu récupérer ce terrain en disant qu'il lui était hypothéqué. M. Shimon a réussi à repousser ce créancier en lui payant la dette de Reuven. Maintenant, ce qui se passe, c'est que M. Shimon va vers les orphelins de M. Reuven et leur dit, voilà, moi, je dois de l'argent à votre père. Votre père devait de l'argent à ce créancier. Étant donné que moi, j'ai payé ce créancier, maintenant, je ne vous dois plus rien. Et eux, les orphelins, alors la Gemara nous dit que les orphelins de M. Reuven peuvent lui répondre non. Tout ce que notre père te devait, ce n'était pas de l'argent, mais c'était une garantie. Et cette garantie, en fait, c'est au cas où il y a un créancier qui vient, hein, nous devrons te payer de l'argent. Et donc, en fait, ça s'appelle des biens mobiliers. Or, il y a une règle qui nous dit que les héritiers qui héritent des biens mobiliers de leur père, ces biens ne s'hypothèquent pas envers le créancier. Donc c'est vrai que notre père nous te doit de l'argent, mais toi tu ne peux percevoir cette dette des biens mobiliers de notre père. Et notre père n'avait pas d'autres biens immobiliers. Et donc en fait, ce que tu as payé la dette de notre père par rapport à ce créancier, c'est ton problème avec ce créancier. Nous ne te devons plus rien. Et toi, il te reste encore la dette que tu as envers notre père. Et Rava a dit que si Shimon est intelligent, alors il peut se baser sur la règle qu'a dit Rav Nachman, qui nous dit que lorsque des orphelins perçoivent un terrain pour une dette que quelqu'un avait envers leur père, alors le créancier de leur père peut percevoir ce terrain, et nous considérons comme ayant appartenu à leur père. Et donc, en fait, ici, M. Shimon peut leur dire, voilà, alors d'accord, je vous donne ce terrain en contrepartie de ma dette. Puis, en fait, comme ça s'appelle des orphelins qui ont perçu un terrain pour une dette, M. Shimon peut maintenant percevoir ce terrain à nouveau, car M. Shimon est le créancier de M. Reuven. Et donc, on applique ici la seconde partie de la règle qui nous dit que lorsque les orphelins ont perçu un terrain pour une dette que l'on devait à leur père, les créanciers de leur père peuvent eux aussi percevoir ce terrain. Et donc, M. Shimon peut récupérer, en fait, son terrain. Et la Gemara veut prouver d'ici qu'en fait, Rava se contredit. Et là, nous sommes d'Aflamed Aleph, Amud Aleph, à la troisième des lignes larges. Alors la Gemara nous dit, « I amad bishlama le mafria au gove » Si tu me dis que lorsque un créancier perçoit sa dette, et il perçoit un terrain, alors nous disons qu'en fait il le perçoit rétroactivement, et depuis la date du prêt, ce terrain lui appartient. « Amtoula chi choserve gove otamen » C'est pour cela que le créancier des orphelins, le créancier du père des orphelins, peut percevoir un terrain que les orphelins ont perçu pour une dette qu'on devait à leur père. Pourquoi ? Car c'est comme si en fait ces orphelins avaient perçu ce terrain lorsque leur père était encore en vie. Car en fait, nous considérons ce terrain qu'il a été perçu depuis la date du prêt. Et donc c'est pour cela qu'en fait, ils ont perçu ce terrain depuis que leur père est encore en vie, et il leur a fait hériter ce terrain. Et donc c'est pour cela que le créancier de leur père peut lui récupérer ce terrain et le percevoir. Et là, il y a un matmikan ou là-bas au gové. Mais si tu me dis qu'un créancier, lorsqu'il perçoit un terrain, c'est que seulement à partir de maintenant, à partir de la date où il le perçoit, alors « Amai conserve govot amen » Comment pouvons-nous dire une telle règle, comme Rava l'a cité au nom de Rav Nachman, qu'un créancier peut percevoir un terrain qui a été perçu par les orphelins du débiteur pour une dette que l'on devait à leur père ?« Haave keman des aviyatme nirse dame » Ça, cela ressemble à un cas où des orphelins ont acheté un nouveau terrain. Car si nous disons que c'est qu'à partir de maintenant qu'ils perçoivent le terrain, donc au moment où ils le perçoivent, c'est considéré comme s'ils ont acheté un nouveau terrain. Veilu kane yadme nirse. Et si les orphelins ont acheté un nouveau terrain, mika mishtav de le balchov, est-ce que ce terrain s'hypothèque envers le créancier? C'est sûr que non. Et donc, pourquoi le créancier de leur père, pourquoi pourra-t-il percevoir ce terrain, étant donné que ce terrain ne lui est pas hypothéqué? Alors la Gemara répond, Shane Atam, là-bas c'est différent. De Amar Léo, car il peut leur dire, Ki Echid de Mishtabana le Avuchon, de même que moi, je suis hypothéqué envers votre père, Mishtabana Nami le Balchov, mon terrain est hypothéqué au créancier de Avuchon de votre père. Et donc en fait, la Gemara nous répond qu'en fait nous pouvons dire que toujours en effet, lorsque on perçoit un terrain, on le perçoit à partir de maintenant, c'est-à-dire à partir de maintenant, à partir de la date où on le prend. Mais il y a une autre règle qui nous dit que si par exemple Monsieur 1 doit de l'argent à Monsieur 2 et Monsieur 2 doit de l'argent à Monsieur 3, de même que les biens de Monsieur 1 sont hypothéqués envers Monsieur 2, ces biens sont hypothéqués aussi directement envers Monsieur 3. Et donc c'est pour cela que les biens de la personne qui avait une dette envers le père de ses orphelins sont non seulement hypothéqués envers l'orphelin, mais ils sont aussi hypothéqués envers le créancier de leur père. Et donc c'est pour cela que si des orphelins ont récupéré un tel terrain, le créancier de leur père pourra le récupérer des mains de l'orphelin. Et cela nous l'apprenons de Rabbi Nathan, de l'enseignement de Rabbi Nathan, de Tania, car nous avons enseigné dans une bretta. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan nous dit, Minain le noche bechavero mané. Nous savons-nous qu'une personne qui a prêté à son ami un mané, bechavero bechavero, et cet ami l'a prêté à un autre ami, shemotin mise, que l'on peut faire sortir le mané de la troisième personne, venodim lesé, et qu'on le donne directement à la première personne, en sautant la seconde personne. Talmud Omar, le verset nous dit, venatan la asher hachemlo, et le donnera à qui cela revient. Et dans le verset, il n'est pas dit qu'on donnera l'argent qui est dû au créancier, mais à qui cela revient. D'au-delà, nous apprenons à qui cela revient. Si ce créancier a lui-même un créancier, on pourra le donner à ce créancier. Et donc c'est pour cela que dans notre cas, le créancier du père des orphelins pourra récupérer un terrain que les orphelins ont perçu pour la dette que quelqu'un avait envers leur père. Alors Gemara, maintenant, on va essayer d'amener une autre preuve. Nan, nous avons enseigné dans la Mishnah. Nochi Sheilva et Israël Alchenzo, un non-juif qui a prêté de l'argent à un juif en contrepartie de son chametz, c'est-à-dire que le juif lui a donné son chametz en gage, achar haPessach, après la fête de Pessach, mutar bana, il est permis d'en tirer profit. Alors, Iamad Bishlama le mafria au gove, je peux comprendre si tu me dis que lorsqu'on perçoit une dette, c'est rétroactivement, hein, tout l'achi, c'est pour cela que mutar bana, il est permis d'en tirer profit, car c'est vrai que ce juif a donné son chametz en gage au non-juif. Mais étant donné que au moment où du paiement, le juif n'avait pas d'argent, et donc le non-juif a pris ce chametz à la place du paiement, donc il s'avère que ce chametz lui appartenait depuis la date du prêt. Et donc, en fait, au moment de la fête de Pessah, il n'appartenait pas à un juif. Et là, il y a Mart Mikanoula Borgove, mais si tu dis que c'est qu'à partir de maintenant qu'il perçoit la dette, Amay Moutarbana, pourquoi est-il permis d'en tirer profit? Alors, au moment de la fête de Pessah, ce Hametz n'était qu'un gage chez le non-juif. Et puisque ce n'était qu'un gage envers le non-juif, il ne lui appartenait pas. Donc, ce Hametz, Birshuta de Israël Avakaï, il se trouvait dans la possession d'un juif. Et donc, c'est du Hametz qui se trouvait dans la possession d'un juif durant la fête de Pessah, et il est interdit d'en tirer profit. Ragma répond, Achabé Maskinan, ici de quoi parlons-nous? Que chez Irino Etzlo, qu'il a non seulement il a considéré ce Hametz comme étant un gage, mais en plus de ça, il l'a déposé chez le non-juif. Et donc c'est pour cela que puisqu'il a déposé chez le non-juif, ce n'est pas considéré comme étant du Hametz en possession d'un juif, mais en possession du non-juif, et c'est pour cela qu'on a le droit d'en tirer profit après la fête de Pessah. L'Agma nous dit, Lima Ketane, allons-nous dire que cette discussion entre Abaye et Rava dépend d'une discussion entre Tanaïm. Car nous avons enseigné, Israël Shilva le Nochi Achimso, un juif qui a prêté de l'argent à un non-juif en contrepartie de son Hametz, c'est-à-dire que le non-juif lui a donné du Hametz en gage, la Chara Pessah, après la fête de Pessah, Eno Over. On ne transgresse pas d'interdit en le consommant. Mishum Rab Meir Amrou, au nom de Rab Meir, on a dit, Over, on transgresse un interdit en le consommant. Alors, Maelav, n'est-ce pas, Bergam et Figue, que tel, ainsi est leur discussion. Des Marsavar, les Maofrea au Gobé. Un des maîtres, c'est-à-dire Rabbi Meir, pense que lorsqu'on perçoit une dette, c'est rétroactif. Et donc, ce Hametz se trouvait en la possession du juif durant la fête de Pessah, car c'est vrai que ce n'était qu'un gage, mais lorsque la date du paiement est arrivée et que le non-juif ne l'a pas payé, donc en fait il prend ce gage et il s'avère que ce Hametz lui appartenait rétroactivement depuis déjà avant la fête de Pessah. Et donc c'est pour cela qu'il sera interdit d'en tirer profit. Omar Savar et l'autre maître pense, c'est-à-dire Tanakama, Mikan Olaba Ogove, qu'il ne perçoit qu'à partir de maintenant. Et donc durant la fête de Pessah, ce Hametz n'était pas dans la possession d'un juif. Ragma Betis Vera, peux-tu penser une chose pareille? Ima Seifa, regarde ce qui est écrit dans la fin de la Mishnah. Aval nochi shilva l'Israël achimso l'achar apesach. Mais si un non-juif a prêté de l'argent à un juif en contrepartie de son Hametz après la fête de Pessah, divrei hakol, d'après tout le monde, over. On transgresse un interdit après la fête, car ce Hametz appartenait à un non-juif. Vea, Ivram ibaele. Or, si la discussion entre Tanakama et Rab Meir était telle comme nous l'avons expliqué, ici ça aurait dû être le contraire. Les man de Amaratam et Noover, d'après celui qui dit là-bas qu'on ne transgresse pas d'interdit, car en fait, on ne perçoit qu'à partir de maintenant. Ici aussi, on ne perçoit qu'à partir de maintenant. Et donc, Acha, ici, Over, on devrait transgresser l'interdit, car c'est vrai que le Hametz était en gage chez le non-juif, mais ce Hametz appartenait à un juif. Et les man de Amaratam Over, et d'après celui qui dit là-bas qu'on transgresse un interdit, car on perçoit rétroactivement, Ah, ici, il aurait dû dire, et non, vers qu'on ne transgresse pas d'interdit, car le non-juif qui a prêté de l'argent à ce juif, le perçoit le gage rétroactivement. Or, dans la fin de la Mishnah, il n'y a pas de discussion qui est mentionnée. Donc, nous ne pouvons pas dire que la discussion entre Tanakama et Remir est telle que nous l'avons expliquée.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et nous passons à la page suivante, Daf, Lamed Aleph, Amud Bet. Et la Acha, nous sommes obligés de dire ici, Bema Eskinan, que nous parlons de quelqu'un, Kegon Sheirino Etzlo, dans le cas où il a déposé le gage chez le créancier. Pas seulement qu'il a spécifié un objet en tant que gage, pas seulement qu'il a spécifié son Hametz comme étant un gage, mais qu'il a déposé chez le créancier. Vekamifige, leur discussion entre Tanakama et Remeir et Bede Rabbi Trak, à propos de l'enseignement de Rabbi Trak. Dama Rabbi Trak a dit, Minayin le Baal Chov Shekone Mashkon, nous savons-nous qu'un créancier acquiert le gage que l'on lui dépose, même si après le rend, chez Neymar, car il est dit dans le verset, lorsqu'on rend un gage au débiteur, ou Lecha Tietz Daka, et pour toi, ce sera un acte de charité. Imenokone, or, s'il n'acquiert pas cet objet, Imenokone Mashkon, s'il n'acquiert pas ce gage, c'est Daka Minayin. Comment est-ce un acte de charité? Un acte de charité, c'est lorsqu'on donne quelque chose qui nous appartient. Or, s'il n'acquiert pas le gage, ça ne s'appelle pas un acte de charité de le rendre. Et donc, de là, nous apprenons que le créancier acquiert le gage. Mikan, de là nous apprenons, les Baal Chov, je connais Mashkon, que le créancier à qui est le gage. Alors Tanakama, savoir le Tanakama qui a dit dans la Mishnah que lorsqu'un juif a prêté de l'argent à un non-juif, il a dit dans la Mishnah qu'on ne transgresse pas, si le non-juif lui a laissé du gage Hametz, il ne transgresse pas l'interdit. Alors lui, il pense, Anemile Israël Misraël, que c'est seulement un juif qui a prêté de l'argent à un autre juif. Alors à ce moment-là, le créancier a clé, à qui est le gage. Ou des Karinabé, ou les Khadzizaka. Dans un cas pareil, nous appliquons le verset qui nous dit, pour toi, ce sera un acte de charité. Aval Israël Minochi, mais lorsque un juif a prêté de l'argent à un non-juif, Lokane, il n'acquiert pas le gage. Et donc, en fait, le Hametz, même si, durant la fête de Pessah, même s'il est en gage envers le juif, il est considéré comme étant appartenant au non-juif, et c'est pour cela qu'on ne transgresse pas l'interdit. Vérem Meir, ça va. Par contre, Rem Meir pense, Kalvachomer Israël, mais Israël, Kalvachomer, c'est un raisonnement a fortiori. Israël, mais Israël, Kane. Si un juif acquiert le gage d'un autre juif lorsqu'il lui a emprunté de l'argent, Israël, Minochi, Lokol Sheken, lorsqu'un juif a prêté de l'argent à un non-juif, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il acquiera le gage? Et donc, c'est pour cela que, dans le cas de notre Mishnah, le juif a acquis le gage aussi, et donc le Hametz était en possession du juif durant la fête de Pessah, et c'est pour cela qu'il sera interdit d'en tirer profit. Aval, mais, Nochi, il va être Israël, Arimso, un non-juif qui a prêté de l'argent à un juif en contrepartie de son Hametz, après la fête de Pessah, dit vrai à col au vert. D'après tout le monde, on transgresse l'interdit. Pourquoi? Atam, là-bas, vadaï nochim Israël au kané. C'est sûr que le non-juif du juif n'acquiert pas le gage. Et donc, en fait, le gage est considéré comme étant encore appartenant au juif. Et donc, c'est du Hametz qui appartient à un juif durant la fête de Pessah. Et donc, après la fête de Pessah, il sera interdit d'en tirer profit. Nan, la Gemara maintenant veut apporter apparemment une contradiction à ce que nous venons d'étudier. Nochi Shilva et Israël al-Khimso, un non-juif qui a prêté de l'argent à un juif en contrepartie de son Khamet. Achar HaPessah, après la fête de Pessah, Moutar Bana, il est permis d'en tirer profit. Alors l'Agma demande, Neinamide Rino Etzlo, même s'il a laissé chez le non-juif durant la fête de Pessah, ce gage qui est Khamet. Hamar, mais pourtant tu as dit, Nochi et Israël, Lokane, un non-juif d'un juif, n'acquiert pas le gage. Et donc, en fait, le non-juif n'a pas acquis ce gage. Et donc, ce juif, ce Hamet, qui est le gage, est considéré comme étant encore appartenant aux juifs. Et donc, pourquoi après la fête de Pessah, on ne transgresse pas l'interdit si on en profite? Alors, je me réponds, Lokasha, ce n'est pas une question. Ade amar le me'archav, ade lo amar le me'archav. Ici, nous parlons d'un cas où il lui a dit, acquiert-le depuis maintenant. Et là, nous parlons d'un cas où il ne lui a pas dit depuis maintenant. S'il lui a dit acquiert-le depuis maintenant, alors le non-juif l'acquiert. Le gage. Mais s'il ne lui a pas dit, il ne l'acquiert pas. Et donc c'est pour cela que, dans la Mishnah, nous parlons d'un cas où il a dit « depuis maintenant », et donc c'est pour cela que le non-juif a acquis ce Hametz, et donc durant la fête de Pessah, bien que c'était un gage du juif envers le non-juif, nous considérons que le non-juif l'a acquis, et donc il était en possession du non-juif durant la fête de Pessah, et donc il n'y a aucun interdit d'en tirer profit après la fête. Et la Gemara nous demande, Umina Temra, de Chanele Ben Echa de Amar Marchav ou Ben Echa de Lo Amar Marchav. Et d'où je sais qu'il y a une différence s'il lui a dit depuis maintenant ou s'il ne lui a pas dit à quel depuis maintenant. Des Tanya, car nous avons enseigné dans une Braïta. Nochi Sherin Pat Pourani et tel Israël. Un non-juif qui a laissé un grand pain, un Pat Pourani, c'est une sorte de grand pain, chez un juif en gage, et non envers. Le juif ne transgresse pas d'interdit s'il garde ce pain durant la fête de Pessah. Veima marlo igatira, mais s'il lui a dit, tu le prends en gage, au vert, alors on transgressera, le juif transgressera un interdit. Or, le début de la Mishnah nous parle aussi dans un cas où le non-juif a laissé ce pain chez le juif en tant que gage. Alors, quelle différence y a-t-il entre le début de cette braïta et la fin de la braïta? Alors, Mishnah reisha ou Mishnah sepa, quelle différence y a-t-il entre le début et la fin de la braïta? Et la lave, alors n'est-ce pas? Shmamina, de là nous apprenons, Shahane, il y a une différence, Eicha de Amar le Me'archav, l'Eicha de l'Amar le Me'archav, entre le cas où il lui a dit depuis maintenant et le cas où il ne lui a pas dit depuis maintenant. C'est-à-dire, s'il ne lui a pas dit depuis maintenant, alors ce n'est pas causé comme étant en possession du juif, et donc c'est pour cela qu'il a le droit de le garder durant la fête de Pessah sans transgresser aucun interdit. Mais s'il lui a dit Igatira, c'est-à-dire, prends-le depuis maintenant, alors, dans un cas pareil, c'est considéré qu'il est acquis depuis maintenant, et donc, s'il le garde durant la fête de Pessah, c'est considéré comme étant en la possession du juif, et donc il serait interdit d'en tirer profit. Agma nous dit, Shmamina, en effet, nous pouvons tirer une telle conclusion. Tanou Rabbanan, nos sages nous ont enseigné. Chanout shel Israël, un magasin appartenant à un juif. Ou Melaï shel Israël, et le stock appartient aux juifs. Ou pour aller, Nochim venichasim lesham. Mais il y a des travailleurs non juifs qui rentrent là-bas et qui travaillent là-bas. Alors, Chametz chez Nimsa Sham, le Chametz qui se trouve là-bas, achar à Pessah, après la fête de Pessah, Asur Ba'ana, il est interdit d'en tirer profit. Ve'en Tsarich Lomar Bachila, et il n'y a pas besoin de dire que c'est sûr qu'il sera interdit de le consommer. Car nous disons que le Chametz, ce n'est pas le Chametz des travailleurs, mais le Chametz du juif. Par contre, dans le cas contraire, Chanout Shel Nochi, le magasin d'un non-juif, ou Melay Shel Nochi, et le stock d'un non-juif, ou Poale Israël Nechassim Beyotim Lesham, et des travailleurs juifs rentrent et sortent là-bas, Chametz Shenimza Sham Achar Pessah, le Chametz que l'on trouve là-bas après la fête de Pessah, Moutar Bachila, il sera permis de le consommer, Ve'en Tsarich Lomar Bana, il n'y a pas besoin de dire, c'est sûr qu'il sera permis d'en tirer profit. Et nous n'avons pas à craindre que ce Chametz, en fait, appartient aux juifs qui travaillaient là-bas. La Mishnah nous dit maintenant, Chametz Shenafla Alav Mapolet, un chametz sur lequel est tombé un éboulement. Areo que me voir, nous le considérons comme étant éliminé, c'est-à-dire nous disons qu'il a été éliminé et on n'a pas besoin de le rechercher pour le brûler ou l'éliminer. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon Gamliel dit, kol she'en akelev yachol lechapes achar. C'est seulement dans un cas où le chien ne peut pas rechercher ce chametz. Si c'est un éboulement tellement grand que le chien ne peut pas rechercher ce chametz. Mais si c'est un petit éboulement que le chien peut le rechercher et le retrouver, alors à ce moment-là, on devra aussi le rechercher afin de le détruire. La Gemara nous dit, Amar Rav Chisda, Rav Chisda nous dit, Betzarich sheyevatel belibo, mais il devra malgré tout l'annuler dans son cœur. Tana, nous avons enseigné, Kama Chafisat Akelev, qu'est-ce qui est considéré comme étant ce qu'un chien peut rechercher, c'est-à-dire jusqu'à quelle mesure un chien peut rechercher du chametz, shlosha tfachim, une mesure de 3 tfachim, c'est-à-dire s'il y a un éboulement d'une hauteur de 3 tfachim au-dessus du chametz, le chien ne peut plus le rechercher. Moins que 3 tfachim, le chien peut le rechercher. Amar le rabba chaber de Rabbi Yosef le rabashi, le fils de Rabbi Yosef lui a dit à rabashi, hada amar Shmuel, ce que Shmuel a dit, ksafim en la shmira et la bakarka, que la seule façon de la garder de l'argent, c'est en la cachant dans le sol. C'est-à-dire qu'il y a une règle qui nous dit qu'il existe 4 sortes de gardiens mentionnés dans la Torah. Quelqu'un qui emprunte, quelqu'un qui loue, quelqu'un qui garde gratuitement, ça s'appelle un shomer hinam, un gardien gratuit, et un shomer sachar, un gardien salarié. Maintenant, nous parlons d'un shomer hinam, quelqu'un qui garde gratuitement. Alors, il y a une règle qui nous dit que quoi qu'il se passe avec ce qu'on lui a donné à garder, il est exempt de payer, car lui, il garde gratuitement. Sauf dans le cas d'une négligence, car s'il a négligé la façon de garder, alors à ce moment-là, il sera obligé de, oui, quand même, payer l'objet gardé. Et Shmuel nous a dit que les Ksafim, lorsqu'on a donné de l'argent à garder à un gardien, même si ce gardien est gratuit, la seule façon de garder de l'argent sans ne pas être négligent envers cet argent, c'est en le cachant dans le sol. Ksafim et Nem Shmira, l'argent, il n'y a aucune autre façon de la garder, et la Bekarka seulement en la cachant dans le sol. Alors ici, Ravacha, le fils de Rav Yosef, demande à Ravashi, est-ce que mi bainan shloshat tfachim, est-ce que nous avons besoin aussi de les enterrer à une profondeur de 3 tfachim? C'est-à-dire que de même que le Chametz, il pourrait être considéré comme étant éliminé, il faut l'enterrer à une profondeur de 3 tfachim, car on ne le retrouve plus. De même, l'argent, pour que personne ne le trouve, et personne ne vienne à le voler, il faut l'enterrer à une profondeur de 3 tfachim. Olo, ou peut-être que pas. Azamale lui a répondu, Acha, ici à propos du chametz, Mishum Recha, c'est à cause de l'odeur, c'est-à-dire que le chien peut repérer le chametz par rapport à l'odeur. Et donc c'est pour cela que Bainan Shoshat Tfachim, c'est pour ça que nous avons besoin d'une mesure de 3 tfachim. Attends, par contre, là-bas, à propos de l'argent, Mishum Irsu Yemeneu, c'est juste pour le cacher des yeux de tout le monde. Velo Baesh Shoshat Tfachim, il n'y a pas besoin d'enterrer une profondeur de 3 tfachim. Bekama, Ragma demande combien, alors quelle profondeur il faudra enterrer de cet argent. Amar Rafram Bar Papa a dit, Misicha, celui qui vient de Sicha a dit, Tefar, une profondeur de 1 Tefar. La Mishnah nous dit, Aochel trumat chametz bepesach. Quelqu'un qui mange de la truma, de la dîme que l'on donnait au Kohen, lorsque cette dîme est chametz durant la fête de Pessah, beshogek, s'il a mangé sans faire exprès, meshalem keren vechomesh, il payera la valeur du capital plus une amende de 1/5. Bemezid, par contre, s'il a consommé exprès, patour, il sera exempt mitashlumim, de payer quoi que ce soit, ou midmeetim, et même de la valeur du bois. C'est-à-dire, il y a une règle qui nous dit que lorsque quelqu'un mange de la trouma, c'est-à-dire la dîme que l'on donnait au Kohen, alors il devra, s'il a mangé sans faire exprès, il devra payer la valeur de cette trouma plus une amende d'un cinquième. Par contre, s'il a mangé exprès, d'habitude, il devra, oui, payer la valeur de la trouma. Mais si cette trouma est du chametz durant la fête de Pessah, il ne payera pas la valeur de la trouma. Et nous allons expliquer dans la Gemara pourquoi. Et même pas la valeur du bois, c'est-à-dire qu'il y a une autre règle qui nous dit que lorsque la trouma est devenue impure, elle est inapte à la consommation par les Kohanim. La seule chose qu'ils peuvent en faire, c'est l'utiliser en tant que combustible pour réchauffer leur fourneau. Et donc, en fait, s'il a mangé une telle terouma durant la fête de Pessah, il ne devra même pas payer la valeur des bois, c'est-à-dire que la valeur que cette trouma avait en tant que combustible. Et nous allons expliquer dans la Gemara pourquoi. Nous finissons ici le shiur de Daf Lamed Alef. Nous commençons ici, Bezrat Hashem, le shiur de Daf Lamed Bet. Nous sommes Daf Lamed Alef, Amud Bet, deux lignes avant la fin. Nanatam, nous avons enseigné là-bas. Haochel teruma beshogeg, quelqu'un qui mange de la teruma sans faire exprès, meshalem keren vechomesh. Il devra payer la valeur de ce qu'il a mangé, plus 1/5 en tant qu'amende. Echad aochel, que ce soit une personne qui a mangé, vechad achoté, soit qu'il ait bu.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.